Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une technique omniprésente dans les labos, la PCR. On en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que c'est au juste, cette réaction en chaîne par polymérase? Comment ça amplifie l'ADN?
Bonjour. Oui, c'est vraiment une méthode clé. Son objectif, c'est de prendre un fragment d'ADN bien spécifique et de le copier. Des millions, même des milliards de fois.
Des milliards de fois?
Oui. Et ça sert soit à détecter si ce fragment est présent, même en quantité infime, soit à en avoir assez pour l'étudier, par exemple, faire un séquençage.
D'accord. Alors, concrètement, pour faire tourner cette photocopieuse à ADN, il faut quoi comme ingrédient?
Il faut plusieurs choses essentielles. D'abord, des amorces. Ce sont de petits bouts d'ADN synthétiques qui vont encadrer la zone qu'on veut copier.
Ok, les délimiteurs.
C'est ça. Ensuite, il faut les briques pour construire les nouvelles chaînes d'ADN, ce qu'on appelle les désoxyribonucléotides, ou DNTP.
Les briques, d'accord.
Voilà. On a aussi besoin d'ions magnésium, souvent sous forme de MgCl2, et une solution tampon pour maintenir un pH stable, un bon environnement, quoi.
Mm-hmm.
Et l'élément crucial, une enzyme spéciale, une ADN polymérase qui résiste à la chaleur. La plus célèbre, c'est la TAC polymérase, un vrai bourreau de travail.
La tech, oui, j'en ai entendu parler.
Exact. Et enfin, tout ça, on le met dans une machine, le thermocycleur. C'est lui qui va gérer les changements de température.
Le thermocycleur. Et comment ça marche, ces cycles de température? C'est quoi le processus?
Alors, le thermocycleur va répéter une séquence de 3 étapes, généralement entre 20 et 30 fois. La première étape, la dénaturation, on chauffe très fort, aux alentours de 94 degrés.
Ah oui, 94 degrés.
Oui, ça permet de séparer les deux brins de la molécule d'ADN de départ.
D'accord.
Deuxième étape, l'hybridation. Là, on baisse la température, vers 55 degrés environ. Ça permet aux amorces de venir se fixer spécifiquement sur les brins séparés de chaque côté de la cible.
Elles trouvent leur place en quelque sorte.
Exactement. Et la troisième étape, l'élongation, ou la synthèse. On remonte un peu la température, souvent vers 72 degrés. C'est la température idéale pour que l'ADN polymérase commence à travailler.
Et elle fait quoi, la polymérase?
Elle s'accroche aux amorces et elle utilise les DNTP, les briques, pour synthétiser le brin d'ADN complémentaire. En gros, elle copie la séquence.
Je vois. Et comme ça se répète 20-30 fois, à chaque cycle, on double la quantité de la cible. C'est ça l'idée?
C'est ça l'idée. C'est tout à fait ça. C'est une amplification exponentielle. 2 copies deviennent 4, qui deviennent 8, puis 16, et ainsi de suite. Très vite, la majorité des fragments produits sont ceux qui ont la taille exacte définie par les amorces. On les appelle les amplicons.
D'accord, les amplicons. Donc on a produit potentiellement des millions, des milliards de copies, mais ça reste microscopique, j'imagine. Comment on fait pour voir si ça a marché, pour lire le résultat?
Oui, bonne question. Alors, la méthode classique, historique, c'est l'électrophorèse sur gel d'agarose.
L'électrophorèse, ok.
On prend le produit de la PCR, on le dépose dans un gel, un peu comme une gélatine, et on applique un courant électrique. Comme l'ADN est chargé négativement, il va migrer vers le pôle positif.
Et la taille joue un rôle?
Oui, les fragments les plus petits migrent plus vite que les gros. On met à côté un marqueur de taille, une sorte d'échelle, avec des fragments d'ADN de taille connue. Et on utilise un colorant, comme le bromure d'étidium, qui se glisse dans l'ADN et devient fluorescent sous lumière UV. Si on voit une bande à la bonne taille, c'est que ça a marché.
Ah d'accord, on visualise une bande.
Voilà. Une autre méthode très utilisée maintenant, c'est la détection par fluorescence directement pendant ou après la PCR. On utilise des molécules comme le SIBR Green.
SIBR Green.
Oui, c'est un fluorophore qui s'intercale spécifiquement dans l'ADN double brin. Plus il y a d'ADN double brin formé pendant la PCR, plus il y a de SIBR Green qui s'insère et plus ça émet une lumière verte. C'est très direct.
Donc plus ça brille, plus il y a d'ADN.
C'est ça. Et il existe aussi d'autres formats, hein, des tests rapides sur membrane ou des techniques comme la lampe qui, elle, amplifie à température constante, sans thermocycleur.
Fascinant. Rendre visible l'invisible. Mais on entend aussi parler de qPCR, de RT-PCR. Il y a plusieurs types de PCR, en fait. C'est quoi les différences?
Oui, tout à fait. La PCR classique, ou point final, c'est celle où on regarde le résultat à la fin, après tous les cycles, par exemple sur gel.
Ok, ça c'est la base.
Voilà. Ensuite, il y a la PCR en temps réel, ou qPCR. La grande différence, c'est qu'on mesure la fluorescence à chaque cycle d'amplification.
Ah, on continue?
Oui. Et ça permet non seulement de détecter la présence de la cible, mais aussi de la quantifier. On regarde combien de cycles il faut pour que le signal fluorescent dépasse un certain seuil. C'est le CT. Moins il faut de cycles, plus il y avait d'ADN au départ.
D'accord, ça donne une quantité réelle. Du coup, on passe du « oui-non » à « combien il y en a ?»
Exactement. Pour ça, on peut utiliser le cible green qu'on a mentionné, ou alors des sondes plus spécifiques, comme les sondes TACMAN.
TACMAN, c'est quoi l'astuce ?
Alors, une sonde TACMAN, c'est un petit fragment d'ADN qui se fixe au milieu de la séquence cible. Elle porte un colorant fluorescent, un fluorophore, et un étouffoir, un quencher, qui l'empêche de briller tant qu'ils sont proches. Quand la polymérase arrive et copie l'ADN, elle dégrade la sonde. Ça sépare le colorant de l'étouffoir, et hop, la lumière est émise. C'est très spécifique, car ça ne brille que si la bonne séquence est copiée.
C'est malin comme système. Et si on veut chercher plusieurs choses en même temps ? Ou si on part d'ARN, comme pour le virus du Covid, par exemple ?
Alors, pour détecter plusieurs cibles dans le même tube, on fait de la PCR multiplex. On utilise simplement plusieurs paires d'amorces et plusieurs sondes avec des couleurs différentes. Chaque couleur correspond à une cible.
Pratique.
Très. Et pour l'ARN, comme celui du SARS-CoV-2, on fait une RT-PCR. Le RT signifie transcriptase inverse. C'est une étape préalable où une enzyme, la transcriptase inverse, transforme l'ARN en une copie d'ADN qu'on appelle ADNC.
On transforme l'ARN en ADN d'abord.
Voilà. Et c'est cet ADNC qui est ensuite amplifié par PCR ou qPCR classique. Et puis, il faut mentionner aussi la PCR digitale.
Digitale, comme numérique.
En quelque sorte, l'idée, c'est de fractionner l'échantillon initial en des milliers, voire des millions, de toutes petites réactions indépendantes dans des micro-gouttelettes ou des micro-puits.
On divise pour mieux régner.
C'est un peu ça, hein. On fait la PCR dans chaque compartiment. Ensuite, on compte simplement combien de compartiments sont devenus positifs, contiennent l'amplicon. Ça donne une quantification absolue, très précise, et c'est extrêmement sensible pour détecter des séquences très rares, par exemple des mutations spécifiques.
Incroyable précision qu'on peut atteindre.
Oui. Et d'ailleurs, pour des applications comme ça, ou pour le clonage où l'exactitude est primordiale, on n'utilise pas toujours l'ATAC. On préfère parfois des polymérases dites « haute fidélité ». Comme la PFU, qui font beaucoup moins d'erreurs en recopiant l'ADN.
Donc, en partant d'une idée simple, copier de l'ADN, on a aujourd'hui toute une boîte à outils hyper sophistiquée pour visualiser, quantifier, analyser le génome. C'est fou ce qu'on peut faire à l'échelle moléculaire.
Tout à fait. La PCR a vraiment révolutionné la biologie moléculaire, le diagnostic médical, la médecine légale, la recherche fondamentale. Elle nous permet de voir et d'étudier ce qui était totalement inaccessible avant. C'est une fenêtre ouverte sur le monde de l'infiniment petit.
Et ça nous amène à une dernière réflexion. Cette capacité incroyable à amplifier et à lire des séquences d'ADN si spécifiques, si puissamment, ça ouvre des perspectives vertigineuses, mais ça pose aussi des questions, non ? Quelles pourraient être les prochaines étapes ? Ou peut-être les limites éthiques ou techniques de ces technologies au-delà de ce qu'on a évoqué là. C'est une question ouverte à méditer.